Alors là, je téléphone. Enfin, on parle de moi. À la base, j'y suis. Alors, je téléphone. Je fais partie de ces millions de gens qui manifestent d'ailleurs les stars hein, anti-Bush dont Howard Zinn parlait aujourd'hui. Je suis française, chercheur aux États-Unis depuis 11 ans et je vis à San Francisco et j'écoute la basse et j'y suis tous les jours sur l'internet depuis des années. Et je voudrais dire que pour les Américains qui n'ont pas la chance de pouvoir écouter votre émission et qui ne parlent pas français, il y a des réseaux de médias indépendantes qui sont subventionnés à 100% par les auditeurs. Ça s'appelle Free Speech Radio et Pacifica Network. Je voudrais aussi citer l'émission de Democracy Now! De Amy Goodman, qui diffuse régulièrement Howard Zinn, Michael Moore, Cornel West et tous autres intellectuels américains. C'est une émission qui a en commun avec la basse j'y suis le fait qu'on pleure beaucoup et qu'on rigole beaucoup en l'écoutant. Et même si Amy Goodman n'est pas une journaliste très rigolote, bien qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour se détendre, en particulier en venant à San Francisco assister à des concerts pour la paix, ça me ferait incroyablement plaisir que son nom soit cité sur France Inter comme étant une des journalistes hein, qui font beaucoup pour l'éducation politique de millions d'Américains. Merci Amy Goodman et merci Daniel Mermet. Mon nom c'est Colombe Chappet et j'habite à San Francisco avec mon fils. Merci.
Ouais, bonsoir, je vous appelais suite à votre émission la soirée Howard Zinn. Parce que moi je suis en train de lire le bouquin là en ce moment, ça fait un moment d'ailleurs que je suis dessus parce que je trouve que c'est un gros pavé quand même, hein. C'est écrit tout petit, mais c'est un bouquin remarquable quoi, je trouve que c'est un bouquin qui remue énormément, d'abord parce qu'il est très très intense, parce qu'il, par moments il est très oppressant je trouve, il dit des choses, tu lis ça, il faut le digérer. Et en même temps, il y a énormément d'espoir parce qu'il parle des luttes qu'il y a eu aux États-Unis dont on parle peu finalement et qui vous disent qu'il faut pas baisser les bras quoi. Il y a vraiment des très très beaux passages, moi je trouve sur notamment le mouvement communiste là-bas quoi, qui a été on parle souvent des communistes du ASS et là voilà, bon, il s'est passé des choses extraordinaires là-bas. Dure mais belle. Et puis il y a aussi tout le mouvement des femmes qui est super. Voilà, donc c'était un peu de pub pour ce merveilleux bouquin. Je conseille vraiment à tout le monde de le lire. Voilà, c'était Thierry de Bretagne. Ciao.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Eh bien, avec 137 milliards de dollars, j'ai un pote qui a une suggestion à vous faire. Je vous le passe.
Quand le PNUD, par exemple, fait l'inventaire des principaux besoins de la planète, c'est-à-dire planète 6 milliards d'habitants, eh bien on estime, le PNUD estime que les principaux besoins de la planète s'élèvent à environ 13 milliards de dollars. Vous voyez, donc 13 milliards de dollars pour la pauvreté extrême.
Voilà, rien d'autre à dire. Bonne soirée.
La cagnotte, eh oui, on avait oublié le montant de la cagnotte. La cagnotte, c'est-à-dire le coût de la guerre en Irak. Vous le savez, sur un immense panneau lumineux au centre de Manhattan, on peut voir, seconde par seconde, ce que coûte la guerre de l'Amérique contre l'Irak. C'est une association anti-guerre qui s'appelle Project Billboard, qui a apposé ce panneau lumineux. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Internet. Ce que je fais à l'instant même, je suis à Washington, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit hier. Et à Washington, il est 9h48, c'est-à-dire qu'il est 14h48 pour vous à l'instant où je vous parle. Et sur mon panneau lumineux, Project Billboard, je vois que le coût total de la guerre en Irak depuis le début est de 138 239 610 611 612 000 dollars. Voilà, alors depuis que l'auditeur a appelé, a laissé son message sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, et bien vous le voyez, il y a plus d'un milliard de dollars qui a été dépensé. Alors on peut se poser la question, où va cet argent? Eh bien le Los Angeles Times nous met sur la piste. Il nous dit, le Los Angeles Times, que 2/3 des compagnies qui s'enrichissent actuellement en Irak, appartiennent à des donateurs du Parti républicain. c'est-à-dire aux entreprises qui financent la campagne de George W. Bush. Ici, business et politique, c'est le même combat, mais chez nous, après tout, c'est Lire et Raffarin, même combat, ou Sarkozy et Sarkozy, même combat. Rien d'exotique là-dedans, pas la peine de venir à Washington pour découvrir une cause pareille. Ce qu'on découvre tout de même ici, au pays de la liberté, c'est que la liberté, en effet, l'emporte toujours. Par exemple, la liberté de posséder des armes et de se trucider librement quand le besoin s'en fait sentir. Avant-hier a pris fin le moratoire sur la détention des fusils de guerre par les particuliers. Et aujourd'hui, chouette, on peut à nouveau s'offrir un petit AK-47, Uzi, M16, etc. Pour Noël, on pourra s'offrir ce genre de flingue et tout le monde se frotte les mains.
Le père est cher, sale chien. Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique.
C'est possible, mais à poil t'es un connard comme les autres.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Alors, je suis une catholique pratiquante, absolument pas extrémiste, et je suis choquée depuis très longtemps de ce qui se passe aux États-Unis, mais j'ai eu l'occasion d'avoir les livres dont parlait Daniel Mermé de Leigh Jenkins sur l'Apocalypse en main. C'est un magnifique thriller, et la seule chose qui me paraît très très drôle dans cette histoire, c'est que pour mon mari et moi, le destructeur de la planète, c'est George Bush. Alors là, en fait, on n'est pas du tout en phase avec les Américains. Et je le remercie pour cette émission et j'espère juste une chose, c'est que nos amis musulmans et nos frères musulmans vont vraiment pas faire l'amalgame avec les chrétiens américains parce qu'on n'a rien à voir avec eux. Et je demande à cet homme qui a été interviewé de me trouver dans la Bible où Dieu a dit que la peine de mort était autorisée. Parce que ça, franchement, au niveau mensonge chrétien, tu ferais bien de la relire, sa Bible, parce que sur tout ce qu'il a dit au propos de Jésus et de Dieu, il y a 99,99% de choses qui sont fausses pour moi. Merci, au revoir.
Il est des personnes qui montrent leurs couilles, essentiellement pour montrer leur cul. Mais les véritables couilles, celles qui se mouillent, on les voit peu. On ne regarde que ceux qui montrent leur cul, parce que ça fait rire, souvent au détriment de l'autre. Il en est d'autres plus discrets, qui ne montrent ni leur couille ni leur cul, mais qui discrètement font leur vie à petits pas. Mais certains, sans jamais humilier personne, les discrets sur eux-mêmes, et qui font parfois beaucoup. Geneviève.
Salut Daniel, c'est un message pour tous ceux qui s'intéressent à la mémoire ouvrière et en particulier à l'histoire de l'île Seguin de Renaud Billancourt. On fait une expo à Sèvres à partir du 16 septembre et on invite tous ceux que ce sujet intéresse à la projection d'un documentaire réalisé par Mehdi Lalaoui qui s'appelle Retour sur l'île Seguin. Mehdi a fait revenir dans l'île désertée de ses machines et de ses ouvriers des anciens de l'île et il leur fait décrire leurs gestes de travail, le travail à la chaîne. Voilà, c'est à 20h30 au CEL, c'est le centre culturel, c'est pas difficile à trouver, en face de la mairie de Sèvres et l'entrée est libre. Alors le documentaire est suivi d'un débat. Beaucoup d'anciens Renault seront là, et puis des gens qui travaillent sur la question, comme Jacqueline Costa Lascou, les gens de l'Atrice qui nous ont aidés à monter cette expo. Voilà, je voulais préciser à la fin du message que c'était une exposition montée sans un sou, mais par des militants, voilà, par des gens que ce sujet intéressait. Voilà, donc si vous pouvez passer cette annonce et si des gens peuvent venir voir ce film, ça serait la meilleure récompense qu'on aurait pour avoir fait ce projet. Voilà, à 20h45, jeudi, venez nombreux, on vous attend. Merci Daniel, au revoir.
Je me joins à quelques collègues qui ont dû vous appeler pour signaler que jeudi 16 à 18h30 devant le 110 rue de Grenelle à Paris 7e, et il y aura un rassemblement, j'espère massif, mais enfin on peut rêver, concernant un soutien qu'on apporte à Roland Veuillet. Roland Veuillet étant un conseiller d'éducation qui fait une grève de la faim depuis 17 jours, demain ça fera 18 jours qu'il est en grève de la faim. devant le ministère de l'Éducation. Donc, si vous pouvez faire passer le message de sorte qu'il y ait des sympathisants, enseignants et non-enseignants, qui viennent demain, jeudi 16, à 18h30 devant ce ministère. Voilà, au revoir.
Salut à tous, un message à l'attention des auditeurs qui seraient sur le coin de Saint-Raphaël, Bagnoles, Fayence, dans ce coin-là. Tous les lundis soirs, on organise une maraude, on fait le tour des SDF pour voir si on peut leur apporter quelque chose ou essayer de qu'ils se regroupent. On est devant la gare de Saint-Raphaël à partir de 19h et il commence à faire froid. Si vous avez des couvertures en bon état, si vous avez des duvets qui vous servent à rien, puisque de toute façon, là, on rentre dans l'hiver, vous en servirez pas et vous en achèterez des neufs l'année prochaine. Ben voilà, tous les lundis soirs à 19h devant la gare SNCF. Vous nous reconnaîtrez, on a une deux chevaux toute jaune. Elle brille, elle clignote. Ciao, vive, portez-vous bien.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis.
Arriving from New York. I still have a dream.
That this is a land of the free.
It is a dream, people.
To serve the human family. Young America, dream.
No ghetto.
She's of the Negro race.
One day.
No
enterprise. This nation will rise up.
And this nation.
Live up to its
element of all population. Qui fait l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut sur l'histoire? Qui raconte l'histoire? Qui interprète l'histoire? À quoi sert l'histoire? Des très très grandes questions. Des très grandes questions. Parce qu'évidemment, l'histoire est un enjeu capital. Cette référence permanente à l'histoire décide de nos vies, de la politique, de nos comportements. Aussi, les historiens ont-ils une responsabilité très grande, et ceux qui les choisissent, et ceux qui diffusent l'histoire, parce qu'évidemment, rien n'est plus idéologique, ou au moins y a-t-il énormément de contenu idéologique dans l'histoire. Avec Howard Zinn, on découvre une autre histoire des États-Unis. On a dans nos têtes européennes, françaises, des clichés sur les États-Unis, une certaine idée des États-Unis à travers quoi? Ben, à travers les histoires qu'on a bien voulu nous raconter, les histoires que nous avons acceptées qu'on nous raconte, les histoires qui sont véhiculées par la pop culture, la culture populaire, le cinéma, la littérature, la chanson, le rock, etc. Voilà, on se fait une certaine idée des États-Unis. Une certaine idée que nous aurions plutôt tendance, nous autres Français d'Europe, à rejeter. Il y a un certain rejet, mais en même temps, il y a une certaine fascination. On connaît bien cette ambivalence, cette ambiguïté du regard européen, français en l'occurrence, sur les États-Unis. Avec Howard Zinn, c'est toute une autre histoire qu'il nous raconte. Celle, on pourrait dire, de l'Amérique du bas, des Américains ordinaires. À partir de 1492, il a pris cette date sans ignorer évidemment du tout ce qui s'est passé auparavant. Il déroule une succession d'histoires dans cette longue histoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Irak. Howard Zinn, un des plus grands historiens américains, a donc publié ce livre sur lequel il travaille depuis une vingtaine d'années. C'est une des plus grandes figures, disons, intellectuelles, entre guillemets, américains. Et son bouquin est absolument prodigieux, parce que c'est écrit de façon... vous vous souvenez du plaisir qu'on avait eu à découvrir l'écrivain britannique Eric Hobsbawm. Ben là, c'est un plaisir analogue. C'est-à-dire qu'on découvre une autre histoire qui, dès le début, dès la description qu'il fait de l'arrivée de Christophe Colomb aux Bahamas, il y a quelque chose qui nous dit ça a dû se passer comme ça. Ça doit être vrai. C'est un boulot d'érudition extraordinaire, mais c'est en même temps, partant de l'histoire populaire, eh bien, ça rejoint le populaire que nous sommes. J'ai pas employé le mot populiste, vous l'aurez noté. Voilà. Donc, une heure encore avec Howard Zinn autour de, allez, on va dire un chef-d'œuvre. Voilà, carrément. Histoire populaire des États-Unis.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 District. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Voilà, quand on lutte, quand on s'engage, quand on participe à des actions, on ne sait jamais exactement où ça va et à quoi ça sert. Vous parlez de la Commune de Paris, évidemment que ça nous touche, parce que c'est notre histoire la plus proche, à laquelle nous sommes le plus attachés, et bien sûr que à la fois la Commune de Paris a été un échec, mais est-ce qu'on peut considérer qu'une histoire est un échec quand on est en train d'en parler en 2003? Est-ce qu'il y avait un seul communard qui pouvait imaginer qu'un historien américain, en 2003, évoquerait la Commune de Paris et parlerait de la Commune de Paris à ses étudiants et,
We have to have faith that the things that we do will have an effect, even if we can't see them.
Il faut, je crois, qu'on ait la foi dans l'effet que peut produire nos actions.
And you have to keep trying. It's like
il faut continuer à essayer.
Like you're trying to start a fire and you light a match.
Comme quand on essaye d'allumer un feu.
And it doesn't catch.
La première allumette.
And you light another match and another match, another match, and 20 times nothing happens.
Seconde allumette, troisième allumette, au bout de la 20e, toujours rien ne se passe.
And then you light a match exactly the way you did before and the fire starts.
Et puis on allume une allumette exactement comme on l'avait fait avant et là un feu prend.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Encourageant, on va le dire d'un seul mot. Ce que nous dit Howard Dean est encourageant. Il a enseigné l'histoire et les sciences politiques à la Boston University. Il est aujourd'hui professeur émérite. Il a dépassé le cap des 80 ans. C'est un homme absolument superbe. On a envie de vieillir de cette façon. Toujours sur la brèche, toujours écrivant, toujours militant, en disant « I am un activiste, je milite ». Et c'est un homme en marche qui, d'une manière extraordinaire, cite Albert Camus. Il dit, Albert Camus disait, il est du devoir des intellectuels de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux. On se demande bien pourquoi cette phrase aujourd'hui nous semble violente. Est-ce que ça voudrait dire que les intellectuels se rangent du côté des bourreaux? Peut-être pas des bourreaux, mais du pouvoir, très très certainement. Alors, vous avez compris, Howard Dean est de ceux qui s'oppose au pouvoir et qui raconte l'histoire à partir de l'histoire du peuple. Et c'est tout un autre regard, une autre construction, un autre paysage historique qui s'offre à nous. En vous lisant, on se dit, mais l'idéologie dominante aujourd'hui, ce qui nous domine, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que ce que nous nous disons tous aujourd'hui, c'est on ne peut rien changer, on n'y peut rien. Et si on fouille dans notre histoire, on se dit, mais on a échoué, on a aimé ces luttes. On a soutenu parfois ces luttes, mais on se dit, force est de constater que nous avons toujours échoué. Et pour que nous ayons ça dans la tête aujourd'hui, il a fallu que vos congénères, historiens et intellectuels, fassent un sacré boulot.
Yeah, unfortunately, of course, that is the impression that is created.
C'est l'impression qui domine, qui est créée.
And in fact, there have been many failures.
Il y a effectivement eu beaucoup d'échecs.
But there have already been extraordinary successes.
Il y a aussi eu des victoires extraordinaires.
Parlons des succès.
Well, you take the 1960s.
Prendre la période des années 60 aux États-Unis.
And I lived in the South in the 1960s in the black community and taught in a black college.
Moi, j'ai vécu dans le sud des États-Unis pendant cette période. J'ai enseigné dans une école noire.
Spelman College, Atlanta, Georgia, right? The deep south. Yeah.
Le sud profond.
Yeah. Oui. And it seemed that black people were powerless.
Il semblait effectivement que les noirs étaient impuissants. Yeah.
White people controlled everything. They controlled the courts, the police, everything.
Les blancs contrôlaient tout, contrôlaient la police et contrôlaient le système judiciaire.
And the national government did not interfere with that control.
Et le gouvernement fédéral n'intervenait pas du tout en fait par rapport à ce pouvoir des blancs dans le sud des États-Unis.
And so when black people decided that they must change their situation, they knew they had to do it themselves.
Et donc quand les noirs ont décidé qu'il fallait qu'ils changent leur propre situation, ils savaient qu'il fallait qu'ils le fassent eux-mêmes.
And so they created little by little a great social movement which galvanized the whole country.
Et peu à peu, ils ont construit un grand mouvement social qui a galvanisé le pays tout entier.
And only when this happened, only when black people themselves organized and demonstrated and went to prison and were killed and were beaten, only when this happened did the federal government finally respond.
Et ça n'est que quand les Noirs eux-mêmes ont commencé à manifester, à se faire arrêter, à aller en prison, ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que le gouvernement fédéral a décidé de faire quelque chose.
And when you go back to the South today, when I go back,
it's
very different.
C'est très, très différent.
But it's a really an example of both success and failure.
Et c'est un exemple, en fait, c'est une illustration à la fois des grandes victoires qu'il y a eu, mais aussi des échecs.
Because you can say that the fundamental condition of black people remains the same. Most of them are still poor.
Parce qu'on peut dire aujourd'hui, malgré tout, que la principale condition des Noirs aux États-Unis aujourd'hui est la même. C'est-à-dire que la majorité d'entre eux est encore très très pauvre.
But there are changes, important changes.
Mais en même temps, il y a des changements importants.
Now there are black policemen, now there are black mayors, now there are blacks in the legislature.
On voit des policiers noirs, des maires noirs, des noirs aussi au Congrès.
Now a black person and a white person can walk down the street without worrying.
Maintenant, blancs et noirs peuvent se balader ensemble dans les rues.
When I was there in the late 1950s, this could not happen.
Quand j'étais dans le sud à la fin des années 50, ça c'était impossible. Yeah.
So, not a complete success, not a complete victory.
C'est pas une victoire totale.
But enough of a victory to prove that it is possible for people without power to gain power and to change things.
Mais c'est une victoire suffisamment conséquente pour prouver que les gens peuvent changer les choses par eux-mêmes.
Résignation, oui et non. Non, parce que il y a cette inépuisable capacité de résistance des hommes et des femmes, de ceux qu'on appelle le peuple. C'est une permanence dans l'histoire des États-Unis telle que Howard Zinn la raconte. J'hésite à dire États-Unis parce que cette résistance, on la retrouve partout, derrière l'apparente impuissance. Et face à ces résistances, eh bien, on trouve les ressources infinies d'un système de contrôle, le plus ingénieux système de contrôle de l'histoire du monde, c'est-à-dire le capitalisme, bien évidemment sa capacité de récupération sans borne, l'autruche capitaliste peut tout avaler. Et voilà l'opposition que Howard Zinn décrit dans cette histoire des États-Unis, tout en soulignant, sans exagération, sans angélisme, qu'il y a des moments de victoire, qu'il y a, comme on le disait dans un passé pas si passé, des avancées.
Well, I spoke already about the 8-hour day won by strikes all over the country in the 1880s.
J'ai déjà parlé de comment la journée de 8 heures a été gagnée.
Robber barons, yes. But also, speaking more recently, I think of the movement against the war in the United States, against the Vietnam War,
which was historic,
which was unprecedented, even in any country.
Sans précédent à l'échelle mondiale.
To have a movement against the war, against the most powerful military, you know, organization in the world.
C'était un mouvement anti-guerre qui se confrontait à la machine militaire la plus puissante du monde.
And that anti-war movement, it seemed powerless.
Et a priori, ce mouvement anti-guerre semblait impuissant.
I remember when we began. I remember speaking at the early part of the war in a meeting in Boston. 100 people showed up.
Je me souviens au tout début de ce mouvement, j'étais intervenu dans un meeting à Boston, 100 personnes.
3 years later, the same place.
3 ans plus tard, au même endroit.
100,000 people showed up.
100,000 personnes sont venues.
The movement became so great that the national government, with all of its power, had to think about whether to continue the war.
Le mouvement est devenu si massif que le gouvernement fédéral a dû reconsidérer, avec tout le pouvoir qu'il avait, son engagement au Vietnam.
Howard, entre le temps long de l'histoire qui parcourt votre livre et l'impatience d'un homme comme vous qui milite, il y a un hiatus entre ce que chacun peut faire dans sa vie, dans son action et son impatience à voir le monde changer, et puis ce temps long de l'histoire. Je voudrais que vous me parliez de ces deux temps. C'est-à-dire, où va l'histoire? Où va l'histoire? L'histoire a-t-elle un sens? Peut-on lui donner un sens? Et qu'est-ce que chacun de nous peut sur l'histoire?
Yeah, that's an interesting question and very complicated.
C'est très compliqué.
Because yes, there is this sort of, you know, dialectic between the short term and the long term.
Yes, parce qu'il y a effectivement une dialectique entre le court terme et le long terme.
And so, if you think in the short term, you see mostly failure.
Et c'est vrai que sur un temps court, on pense aux échecs.
And so young people today will, you know, look around and say, look, we are at war. Look, we still have racism.
Alors les jeunes aujourd'hui regardent ce qui se passe et disent, mais regardez, on est en guerre. Regardez, le racisme existe toujours. Rien n'a changé.
If you have a perspective of long term of what racism was like 40 years ago.
Mais mettons ça en perspective sur le long terme, si on pense à ce qu'était le racisme il y a 40 ans.
And what it is like today,
then you
see a change has taken place.
Mm-hmm. Alors on voit clairement qu'il y a un changement qui s'est opéré.
And here's another example.
Voici un autre exemple.
40 years ago, people in the United States did not think about the issue of equality of women.
Il y a 40 ans aux États-Unis, les gens ne pensaient pas à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Or the rights of homosexuals.
Ou ne pensaient pas non plus aux droits des homosexuels.
Yeah. In fact, it was a forbidden topic, the rights of homosexuals.
C'était même un sujet tabou il y a 40 ans, le droit des homosexuels.
Now there is a consciousness about that, a consciousness about sexual equality, a consciousness about the right of people to carry out their sexual activities in a free way.
Maintenant, il y a une conscience de ça, une conscience de l'égalité sexuelle, du droit à chacun d'avoir ses préférences sexuelles et à pouvoir vivre comme il veut.
Which is an advance over the way it was 40 years ago.
C'est clairement un progrès sur les 40 dernières années.
But I say it is complicated because, you know, you look at the world today.
Malgré tout, c'est compliqué.
And you see violence and war.
Il suffit de regarder le monde aujourd'hui et c'est vrai qu'on voit la guerre, on voit la violence.
And I think you have to have a certain kind of faith that underneath the surface of violence, there's a growing consciousness among people that we must not have war anymore.
Je pense qu'il faut vraiment avoir, je veux dire, une croyance en que il y a un grand mouvement fort de conscience, en fait, qu'il faut s'opposer à la guerre.
No, there's a difference between what you see on the top, where the holders of power are, and the slow development of consciousness under the surface.
Il y a un décalage entre ce qu'on voit au-dessus, superficiellement, ce contexte général de guerre, etc., et le mouvement de conscience, en fait, qui existe et qui s'étend en lame de fond, qui se développe.
And then only at certain points in history that consciousness below, which is invisible, breaks through the surface.
Et à certains moments clés de l'histoire, en fait, yeah, cette conscience qui se développe en lame de fond éclate au grand jour.
Yeah. We've seen it in other countries. We've seen it happen, and then we're surprised. We're surprised when suddenly the Berlin Wall falls. Ouais. We're surprised when apartheid ends in South Africa.
On l'a vu dans d'autres parties du monde. On était complètement surpris quand le mur de Berlin est tombé. On l'a vu aussi quand l'apartheid a disparu en Afrique du Sud.
Because under the surface, in South Africa, things were happening that were invisible.
Car sous la surface en Afrique du Sud, des choses importantes étaient en train de se produire.
C'est ce que Walter Benjamin appelait le souterrain des choses.
Yes, exactly.
Mais sur le temps plus long, est-ce que pour vous l'histoire a un sens? Et est-ce qu'on peut lui donner un sens?
My hope, it's a hope.
Mon espoir, c'est un espoir.
More than a scientific analysis.
Plus qu'une analyse scientifique.
Because it's a race. It's a race between the powers of violence and the consciousness, the growing consciousness of people.
Parce qu'il s'agit d'une course, une course contre la montre entre les forces de la violence, du pouvoir et les forces de cette conscientisation de plus en plus large qui se fait.
And because it's a race, it means we cannot stand aside and watch the race.
C'est pourquoi, puisque il s'agit d'une course, on ne peut pas simplement rester sur le bas-côté et observer.
Because we stand by and watch the race, it will be lost.
Car si on est simplement observateur, tout simplement, on perdra la course.
Not only describe history and not only observe history, we must participate in history.
C'est pourquoi on ne peut pas simplement décrire l'histoire, mais on doit y participer.
Et la façon héroïque de raconter l'histoire avec des batailles, des victoires, des armées et des généraux, c'est-à-dire l'histoire telle qu'elle est la plupart du temps racontée par les vainqueurs. Et puis il y a, puisqu'on est en train de parler de l'histoire des États-Unis, la façon dont l'histoire des États-Unis a été popularisée, mais ça n'était pas pour autant l'histoire du peuple américain, l'histoire du peuple des États-Unis d'Amérique. En tout cas, Howard Zinn, avec qui nous sommes aujourd'hui, l'auteur de Une histoire populaire des États-Unis, qui est sorti aux éditions Agon, a un autre point de vue, celui du peuple, celui du quotidien, et la façon dont ce peuple agit et lutte dans l'histoire. Je voudrais, Howard, qu'on continue un peu sur les clichés que les Français, notre culture, nous avons des États-Unis. On a évoqué la figure du noir nord-américain. Rapidement, il y a l'Indien, il y a le cow-boy, il y a le personnage de la mafia, etc. Je dis ça parce que j'évoque ces figures parce que vous dites, moi j'écris une histoire populaire des États-Unis par le bas, hein, par les figures populaires. Après tout, les figures que j'évoque là, le cow-boy, l'Indien, le gars de la mafia, enfin, on pourrait parler du GI, du soldat du Vietnam, voilà des personnages qui nous sont familiers. Il y a déjà une histoire populaire des États-Unis à travers le cinéma et à travers la culture, la pop culture.
I suppose there is a false popularization of history.
On peut parler d'une fausse popularisation de l'histoire des États-Unis.
Which which perpetuates the way things are.
Une fausse histoire populaire qui du coup perpétue en fait l'état actuel des choses.
Because it's an entertainment and it makes people satisfied and complacent.
Il s'agit de la société du spectacle et ça rend les gens complaisants, satisfaits d'eux-mêmes.
Mm-hmm. And that is different than the people's history, which stresses the activities and power and struggles of people.
C'est complètement différent de l'histoire populaire au sens où c'est l'histoire des mouvements par en bas, de l'auto-activité des gens, de l'émancipation des gens.
Mais parlez-moi de certains de ces personnages quand même. Dans mon enfance, l'Amérique, on disait pas les États-Unis, on disait l'Amérique. Il y avait le personnage du cow-boy et de l'Indien.
There were two figures, the cowboy and the Indian, in what was then called not the United States but America.
Le cowboy était fort, juste et menacé par l'Indien. Et curieusement, en même temps, exactement en même temps, c'était la guerre en Algérie.
Yeah, that's interesting, as I suspect that the Algerians were like the Indians.
C'est intéressant parce que j'imagine que les Algériens étaient à ce moment-là comme les Indiens pour nous.
They did not emerge as human beings.
Ils n'étaient pas présentés, ils n'émergeaient pas comme des êtres humains.
And so if they're not human beings, you can do what anything you want to them.
Du coup, si nous sommes pas des êtres humains, on peut faire ce qu'on veut, en fait, avec eux.
And so in the United States, not just the impression in Europe, but in the United States, Indians were caricatures.
C'est pourquoi aux États-Unis, hein, pas simplement en Europe, les Indiens étaient caricaturés.
Yeah. But they were not human beings.
Ce n'étaient pas des êtres humains.
And so you could see the strong cowboy as the hero.
C'est pourquoi on pouvait considérer le cow-boy tel un héros et les Indiens tels des sauvages.
But what is happening today is that the Indian is breaking through that stereotype.
Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme l'Indien fait exploser ce stéréotype.
Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la vie quotidienne primitive de l'Indien moyen d'autrefois que les légendes qu'on a racontées sur le général Custer. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout la façon de vivre des Indiens. Et non pas, comment dirais-je, les aventures. Little Bighorn n'a pas constitué une représentation fidèle des rencontres qui se produisaient entre blancs et indiens, Monsieur Crabbe. C'est-à-dire l'espèce de génocide dont les Indiens ont été les victimes. L'extermination. L'assassinat collectif de toute une population. Car en fait, c'est ce que nous avons fait aux Indiens. Mais bien entendu, il serait très surprenant que le vieux combattant d'Indien que vous étiez ait les mêmes points de vue que moi.
Restez assis là, vous allez entendre des choses instructives.
Howard, vous voulez nous parliez de notre rapport à notre histoire récente, aux uns et aux autres. Les Français, pendant des années, dont nous sortons à peine, ont regardé leur histoire, l'histoire des années noires, des années de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, ils mâchent et ils remâchent l'histoire de notre guerre d'Algérie, avec les épisodes de la torture, avec maintenant l'histoire des pieds noirs, des harkis. Alors que on vous cite toujours comme exemple, comme ceux qui sont beaucoup plus francs et beaucoup plus honnêtes vis-à-vis de leur histoire. Parlez-moi de ça, ce rapport.
I think that's a very false impression of history in the United States.
Cette impression est très fausse en fait des États-Unis.
Yeah. Because, I mean, for instance, the Vietnam War.
Par exemple, la guerre du Vietnam.
Young people today do not know the history of the Vietnam War.
Les jeunes aux États-Unis aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose de la guerre du Vietnam.
And I spoke not long ago to a group of high school students in the United States.
J'ai parlé lors d'un meeting. Je me suis adressée à des lycéens aux États-Unis.
They were in an advanced history class.
Ils faisaient partie d'un cours d'histoire avancé, comme on dit.
And I asked, how many people here, how many of you students have heard of the My Lai Massacre.
Je leur ai demandé combien parmi vous ont entendu parler du massacre de My Lai. Yeah.
Not one student raised a hand.
Pas un n'a levé la main.
No. So the Vietnam War is studied very quickly, very superficially.
Ah, la guerre du Vietnam est encore étudiée de façon très superficielle et très rapide.
No. And so the here's another example.
Voilà un autre exemple.
You know. The Hiroshima. The dropping of the bombs on Hiroshima and Nagasaki.
Sur Hiroshima et Nagasaki.
There's no real examination of this in American history courses.
Il y a très peu d'examens minutieux de ces deux bombes atomiques dans les livres d'histoire.
And so as a result, the impression given to the American public is it was necessary to drop bombs on Hiroshima and Nagasaki.
Par conséquent, l'idée qui domine au sein de la population américaine, c'est que il était tout à fait nécessaire en fait de lâcher ces deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.
La violence comme une nécessité de l'histoire.
Yeah, unfortunately.
Yes. Howard, c'est ce que vous dites au début de votre livre sur le génocide des Indiens de la conquête.
Yes.
Dans la mémoire, c'est oui, c'était pas gentil, mais enfin c'était nécessaire.
That is what people gather and learn, you know.
Oui, c'est ce que les gens comprennent de ce qu'ils apprennent.
Because when history has worked itself out in a certain way,
parce qu'une fois que les événements se sont produits d'une certaine façon,
it is very difficult to imagine it happening any other way.
C'est très difficile d'imaginer que ça ait pu se produire différemment.
And so there is an impression of inevitability.
D'où cette impression d'inévitabilité de l'histoire.
Yeah. I think it is the job of thinking people to imagine alternatives.
C'est pourquoi, pour moi, le rôle des penseurs, c'est d'imaginer des alternatives.
C'est de dire qu'il y a des alternatives possibles, déjà.
Yes.
Décoincer les esprits.
Exactly.
C'est tout. C'est déjà beaucoup.
Exactly.
Yeah,
exactly.
Big job.
Yeah. And there is enough history to demonstrate alternatives.
Et il y a suffisamment d'histoires qui permettent de démontrer
I mentioned South Africa.
Je parlais de l'Afrique du Sud tout à l'heure.
You know, if there had been a bloody civil war in South Africa.
S'il y avait eu une guerre civile sanglante en Afrique du Sud.
To end apartheid.
Qui avait abouti à la fin de l'apartheid.
Then people would say that was the only way it could be done.
Du coup, les gens auraient conclu que c'était la seule façon.
Or if there were a war against the Soviet Union.
Ou s'il y avait une guerre contre l'Union soviétique.
You know, and the Stalinist regime ended, they would say, well, we had to make war against the Soviet Union in order for change to take place.
Et que cette guerre avait mis à bas l'Union soviétique, on en aurait conclu que c'était la voie ou le passage obligé pour aboutir à la fin de ce régime stalinien.
But we see in both cases in South Africa and in Eastern Europe.
Mais voyez-vous dans ces deux cas,
remarkable changes took place without terrible violence.
En Afrique du Sud comme en Europe de l'Est, de grands changements sont advenus sans passer par des mouvements violents sanglants.
But our schools don't teach history that way.
Mais nos écoles ne nous enseignent pas l'histoire de cette manière-là.
Yeah. And so in the United States, you see the films about war, enormous number of films about war, and it gives young people the impression that the only way anything can be accomplished is with war.
Il y a des tonnes de films de guerre, et du coup ça donne l'impression aux jeunes aux États-Unis que la seule façon d'accomplir de grandes choses dans l'histoire, c'est à travers des guerres.
Ce que vous prouvez, c'est que c'était différent que ce qu'on nous dit, et donc on peut conclure qu'on peut faire différemment aujourd'hui.
Yeah, exactly.
Voici les infos, toutes les infos fraîches et approuvées par l'infanterie américaine, l'armée qui sent bon la rose. La vie est belle.
sommes-nous tous des Américains? Sommes-nous tous des Américanophobes? Ben, faut d'abord savoir un peu de quoi on cause. Et c'est une occasion avec Howard Zinn, historien, auteur de Une histoire populaire des États-Unis aux éditions Agon, historien, mais un historien à 80 ans passés, engagé.
I was an activist before I became a historian.
J'étais un militant avant d'être un historien.
Yeah. At the age of 18, I did not go to college. I went to work in a shipyard.
À 18 ans, je suis pas allé à l'université. J'ai travaillé comme docker.
And I was an organizer among shipyard workers.
Et j'étais un syndicaliste qui organisait les dockers.
Un rouge.
Left.
De gauche.
Yeah, I was one of the, you know, several young radical organizers.
J'étais un de ces jeunes radicaux, en fait.
C'était quelle époque, ça, what?
That was at the beginning of World War II.
Tout début de la Deuxième Guerre mondiale.
And then I entered the Air Force.
Et puis je me suis engagé dans la Deuxième Guerre mondiale.
Yeah. Dans l'aviation?
Dans l'aviation.
I was a bombardier.
Oui, j'étais un bombardier.
And so when
vous voulez dire que vous nous avez bombardés?
Oui.
Yes, exactly. Okay. Oublions ça, c'est un détail.
I bombed a little town in France, Royan.
J'ai participé au bombardement d'une petite ville en France, Royan.
Yeah, very almost near the end of the war.
À la toute fin de la guerre, quasi à la fin de la guerre.
I learned a lot from that experience.
J'ai beaucoup appris à travers de cette expérience.
Yeah. Because it was a totally unnecessary bombing.
Parce que c'était absolument inutile de bombarder.
Yeah.
Howard, quand j'étais jeune. Et il y avait à l'entrée de la ville de Royan un grand panneau qui disait Royan, ville bombardée par erreur. Et c'était vous.
Erreur? Non.
Je ne pense pas que c'était simplement une erreur, ceci dit.
C'était pas une erreur.
It wasn't an error. No.
C'était quoi?
It's very hard to figure out the motives.
Très difficile de comprendre les motifs de ce bombardement.
But several possibilities.
Mais il y a plusieurs possibilités.
Yeah. One thing is clear, it was not necessary for military purposes.
Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue militaire, c'était absolument inutile.
Because it was clear that the war was going to be over in a few weeks.
Parce que c'était évident que la guerre allait arriver à sa fin et dans quelques semaines c'est...
So later, after, when I began to think about this, and I thought about what were the motives.
Et plus tard, après la guerre, quand je me suis posé la question des motifs de ce bombardement,
I thought one, we were trying out a new type of bomb.
Je me suis dit premièrement, on essayait une bombe de type nouveau.
Napalm.
Napalm.
It was the first use of napalm.
Première fois qu'on a utilisé le napalm
Royan,
en Europe.
Sur Royan, c'est le premier endroit où on a essayé le napalm en Europe.
Exactement.
Ah, ah.
Exactement. And that's, it's interesting, like the atomic bomb.
Comme la bombe atomique, voyez-vous, c'est la même chose.
Another reason is, it's always necessary for the military when they have something to use it.
La deuxième raison, c'est qu'il est toujours nécessaire pour l'armée, quand elle possède quelque chose, de l'utiliser.
We had all these airplanes and all these bombs.
Tous ces avions et toutes ces bombes.
They must not be wasted.
On ne devait pas gâcher.
We must use them.
Qu'il fallait utiliser.
Qu'est-ce qu'on fait pour pas gâcher une bombe? On la jette.
Yes. Yes. Yes.
C'est
yes.
C'est quand on la jette pas qu'on la gâche.
Well, of course. Of course.
C'était la suite de l'entretien avec Howard Zinn, auteur du livre Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, paru aux éditions Agon, à paraître du même auteur, Nous, le peuple des États-Unis, essai sur la liberté d'expression et l'anticommunisme, le gouvernement et la justice économique, les guerres justes, la violence et la nature humaine. C'est aux éditions Agon le 28 octobre prochain.